France Inter. .fr.
Bonjour, le violoniste Florin Niculescu est avec nous aujourd'hui. Digne héritier de Stéphane Grappelli, ce maître du violon jazz et tzigane est l'un des virtuoses majeurs de la scène internationale. Enfant de musicien qui a pris son instrument entre les bras dès l'âge de 4 ans, il a grandi en Roumanie, apprenant son instrument à l'Académie de musique Georges Enescu de Bucarest, dont il ressort avec le premier prix. Florin Niculescu s'installe à Paris dans les années 90 et c'est là qu'il rencontre les plus grands musiciens qui lui feront perfectionner sa technique musicale irréprochable et virtuose. Birelli Lagrène, Babi Crénart, le fils de Django, Michel Graillet, Jacques Vidal et d'autres. Mais c'est avec Birelli Lagrène qu'il redonnera dans les années 2000 ses lettres de noblesse au jazz manouche en reprenant à l'identique la composition du quintet Hot Club de France de Django Reinhardt et qu'ils appelleront ensemble le Gypsy Project. Alors, de formation classique, ce virtuose du violon fête ce mois-ci ses 25 ans de carrière et il est avec nous pendant une heure pour nous faire écouter les musiques de sa vie. Du violon encore au programme de Vous avez dit classique, mais du violon dans tous ses états. Bonjour Florin Niculescu.
Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très ravi de me retrouver ici.
Eh bien nous aussi, on est contents de vous recevoir. On va pouvoir parler de ce cheminement à travers votre musique, vos musiques et puis aussi à travers l'Europe, on peut dire les choses comme
Oui, avec grand plaisir. Oui.
Alors vous êtes de parents musiciens, vos parents sont musiciens?
Absolument, je suis venu au monde d'une père violoniste, d'une mère pianiste. Toute ma famille en Roumanie, à Bucarest, joue. On ne sait pas faire autre chose que jouer. Ma sœur est violoncelliste, mon grand-père il était pianiste, chanteur. De côté de mon père, de côté de ma mère, ça joue partout. Voilà.
Donc, on va vous entendre vous jouer, mais on va écouter ceux qui vous ont nourri. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, mais on va commencer avec l'une des œuvres les plus célèbres de l'histoire de la musique, la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. C'est une symphonie qu'il a composée alors qu'il enseignait au conservatoire de New York en 1893. Et à ce moment-là, quand il la compose, il tente vraiment d'y faire entendre ce qu'il ressent en s'inspirant à la fois des particularités de la musique indienne, afro-américaine et aussi mêlé aux mélodies tchèques.
C'est pour ça que je voulais tant parler de cette œuvre-là, parce que je pense que ça me ressemble. Je viens au monde dans une famille qui est ancrée de culture tzigane et qui en apprend aussi des autres cultures. On apprend à l'oreille la musique. Voilà,
par l'oreille uniquement,
voilà. Ouais. Uniquement. Après, je suis rentré dans une école. J'ai découvert aussi des autres cultures musicales et je trouve que cette œuvre-là, ça parle de tout ça. Hein.
Alors effectivement, avec cette énergie percutante,
en plus,
ces explosions.
Une énergie terrible que ça me... Voilà, ça
effectivement,
chaud au cœur.
Des explosions et des danses qui nous renvoient peut-être à votre culture à vous.
Absolument, absolument.
Florin Niculescu, donc, cette symphonie du Nouveau Monde numéro 9 en mi mineur de Dvorak et ce mouvement si connu qui est le troisième mouvement de cette symphonie.
Thank you.
un extrait de cette symphonie numéro 9 en mi mineur, opus 98 de d'Anton Dvorak, la symphonie dite du Nouveau Monde. C'était le Scherzo par l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction de Raphaël Kubelik. Et pour démarrer cette émission avec vous, Florin Niculescu, parce que vous êtes donc un violoniste né à Bucarest, en Roumanie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes né là-bas. En tout cas, vous avez grandi là-bas.
Si, je suis né là-bas, à Bucarest, en Roumanie, oui.
Donc, vos parents musiciens, famille de musiciens, de tradition musicienne.
Oui, oui, absolument. Oui, oui,
professionnel, ils jouaient partout.
Oui, oui, exactement. Mon père, il avait tenu la direction musicale, par exemple, de l'orchestre de Georges Zamfir, le connu flûtiste de Pain. Après, il a eu la direction d'une orchestre un orchestre populaire qui s'appelait Chokerli à l'Alouette, ouais. Là-bas, et qui est hyper connu dans le pays, et aussi il avait fait beaucoup de tournées en étranger. C'est une vedette, mon père, là-bas. Ma mère, elle avait joué professionnellement. Après, quand elle avait rencontré mon père, l'activité professionnelle s'est arrêtée parce que c'est dédié au mariage, aux enfants, tout ça, et à notre éducation qui ça c'est bien, je pense, qu'une mère éduque les enfants, qu'elle sait de quoi on peut parler en musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do,
qu'on est en profondeur. Bien sûr,
voilà. Ma sœur, après, elle est violoncelliste.
Mais alors, ça veut dire que vous êtes né quasiment avec un violon entre les bras, Florin Niculescu?
Ça, si vous voulez, oui. J'ai, à partir de 4 ans, mon père, il m'avait mis dans les bras un petit violon. Mais je pense que c'est moi qui j'avais demandé. Je voyais mon père jouer du violon et j'étais curieux de toucher cet instrument. Et comme ça, c'est mon père, il a eu l'idée, et ma mère, bien sûr, de me acheter un petit violon. Et depuis ce moment-là, je suis resté avec elle.
C'est vrai, vous avez tout de suite joué, parce qu'on dit que c'est un instrument très difficile à jouer, surtout au début.
Oui, mon père, ma mère, ils m'ont dit que j'ai pris à peu près correctement le petit violon, le petit archer, et il y avait des mains qui s'est bien posées sur l'archer, le violon. Et déjà, à 5-6 ans, je pouvais jouer des petits morceaux qui mon père il m'apprenait, tout ça. Je pouvais tirer un son correctement assez vite. J'ai pu appuyer bien sur les cordes, tout ça.
Vous avez commencé par la musique folklorique, la musique d'oreille.
La musique pas tellement folklorique, mais une petite musique vers le classique des déserts, un peu comme des petites valses, etc., des petites mélodies. Pas justement les ornements tout de suite, tout ça, zigane. Par exemple, j'ai pas participé. J'ai pas vu mon père faire beaucoup de fêtes, zigane, tout ça, que très tard. Quand même, il disait, il faut que tu travailles l'instrument vers le classique, que tu apprends bien à jouer du violon, et après on va voir.
Après on verra.
On verra, bien sûr.
Alors on va poursuivre avec un musicien, un compositeur, Brahms, qui s'est beaucoup intéressé à la musique tzigane.
Exactement.
Et cette troisième symphonie en fa majeur de Johannes Brahms, qui offre une très belle partition pour les violons.
Absolument, c'est très romantique et ça me fait chaud au cœur.
Vous l'avez joué, vous ?
J'étais dans l'orchestre là-bas, oui.
Voici ce mouvement si connu. Alors, tout à l'heure, on pouvait reconnaître la chanson de Gainsbourg, Bibi Nichols, dans la Symphonie du Nouveau Monde. On va reconnaître encore Gainsbourg dans une autre partition que Jane Birkin, a aussi chantée. Voici ce mouvement, ce troisième mouvement de la Symphonie en fa majeur de Brahms.
Thank you.
le Poco Allegretto de la symphonie numéro 3 en Fa majeur opus 90 de Johannes Brahms. C'est par le Philharmonia Orchestra sous direction de Christoph von Donani. Et Florin Niculescu, ça vous émeut beaucoup. On sent qu'il y a beaucoup de...
Écoutez, c'est fantastique, écoutez cette musique-là. C'est tellement plein d'amour, de profondeur, d'intelligence, de créativité. Ça fait réfléchir à beaucoup de choses. Il y a une tranquillité, une profondeur dans cette musique-là qui... C'est tout à fait inégalé pour moi. Brahms, c'est quelqu'un de très énergique, mais vous voyez, ces mouvements-là, ça fait penser vraiment à l'amour pur, hein, pour moi.
Vous avez dit classique ? Elsa Boublil sur France Inter.
Alors Florent Niculescu, vous avez donc grandi à Bucarest, vous avez été au conservatoire Georges Enescu, à l'Académie de musique, vous en êtes sorti avec un premier prix et dans les années 90, en 1990 d'ailleurs, vous décidez de quitter votre pays pour venir en France.
Oui, en 91,
précisément,
parce que j'avais assez de cette position de la musique classique, pianissimo, forte, crescendo, etc. Et qui, comme j'ai grandi dans une famille qui en jouait aussi librement, je me suis intéressé à l'harmonie, développement de l'oreille musicale, etc. Et quand j'ai écouté dans une émission de radio Stéphane Grappelli et Django Reinhardt, je me suis dit, voilà la musique que je veux faire. C'était une musique fantastique, maîtrisée du point de vue son et tempi, voilà. Et c'était assez proche de qu'est-ce que je faisais en ce moment-là par le classique, mais il y avait une liberté dans l'expression, dans la pensée musicale, et je me suis dit, il faut absolument connaître ça.
Donc c'est là que vous êtes venu chercher ça en France.
Absolument, je voulais connaître Grappelli. Voilà.
Alors on va écouter Django Reinhardt tout seul, interprétant Nuages, à la clarinette, à la guitare amplifiée.
À la guitare, il était clarisse, bien sûr.
Une composition de 1940, et vous verrez, on entend parfaitement sa virtuosité, ainsi que son talent de mélodiste, et donc de liberté, bien sûr, Florent Niculescu. Thank you. Nuages de Django Reinhardt avec Maurice Vander, Pierre Michelot, Jean-Louis Val, et bien sûr Django Reinhardt à la guitare et qui interprétait donc ce grand standard composé par Django Reinhardt et qui nous signale votre changement de direction en fait avec votre arrivée en France.
Complètement, parce que j'ai écouté, j'avais 13-14 ans, une émission de radio, en ce moment-là, plein époque de Ceausescu, communisme, tout ça, le jazz, c'était interdit parce que c'était une forme de liberté c'était lié par rapport à l'Amérique, etc. Les trucs politiques, je ne voudrais pas discuter là, je ne suis pas là pour discuter des choses politiques, mais on n'avait pas le droit d'écouter cette musique-là. Et justement, il y avait un journaliste qui se battait beaucoup pour la musique de jazz. Et je me rappelle, à 3h du matin, il y avait une demi-heure de jazz. Et moi, j'étais au courant parce que j'avais une très grande admiration pour les musiciens qui jouaient la musique de jazz, etc. Comme j'avais dit, je cherchais la liberté musicale et je trouvais dedans cette liberté. Et il y avait une demi-heure, à 3h du matin, je me rappelle, j'avais 13-14 ans, et j'ai écouté Django et Grappelli pour la première fois. En plus, le journaliste, il avait dit que Django, il avait pas tout sa main gauche,
ouais,
il était
brûlé,
tout ça. Et je me disais, c'est pas possible d'avoir... Et j'ai écouté Grappelli, j'ai resté scotché par la justesse, par l'élégance, par l'assurance de l'instrument, les idées, etc. Ah ben, à ce moment-là, j'ai dans l'instant, j'ai décidé de pouvoir connaître cette musique-là et de me dédier à cette forme de musique.
Bah vous avez réussi puisqu'on dit de vous que vous êtes le nouveau Stéphane Grappelli.
Oh là, merci beaucoup.
Alors, on va vous écouter dans ce disque qui vient de sortir qui s'appelle 25 Years After.
Oui.
Et ce thème, The Old Country, que vous interprétez entouré de vos compagnons musiciens. Le voici, donc il faut bien ouvrir son oreille puisqu'on écoute aussi Florin Niculescu au violon.
Thank you.
Favorite Standards, premier disque de ce disque 25 Years After de Florin Niculescu, avec donc au piano Turin Mitchell, à la contrebasse c'est Daryl Hall, à la batterie Bruno Diarelli, et vous, Florin Niculescu.
Bien sûr, et j'ai un invité très cher à mon cœur qui s'appelle Hugo Lippi, qui est guitariste, et je suis
oui,
très fier de jouer avec lui. Voilà.
Un disque donc double CD qui retrace un peu vos 25 ans de carrière, Florin Niculescu.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Alors Florin Niculescu, on va écouter maintenant une œuvre qui vous va bien parce que vous disiez en 2001, un bon musicien ne peut renier ses origines, mais lorsqu'il joue, il ne pense pas à une culture précise. Alors Sibelius, typiquement, qui était né en Finlande, on a beaucoup dit de lui qu'il pensait beaucoup à la musique folklorique quand il composait. Néanmoins, le concerto en ré mineur qu'on va écouter s'inspire vraiment de la musique romantique allemande.
Absolument, c'est une musique pour moi fantastique et elle est pleine de charme et d'histoire. Voilà.
Et donc, vous l'avez joué ça aussi au violon ?
Absolument, et comment ? C'était obligatoire.
C'est comme une rhapsodie un petit peu, on peut dire ça ?
C'est tout à fait, moi je pense que Sibelius, quand il avait composé ce concerto-là, il avait jeté les idées musicales spontanément sur le papier, il était influencé par les endroits où il avait passé, tout ça, et on voit qu'il y a une certaine pensée de liberté justement dans l'écriture, et le violon il est vraiment mis en avant.
Alors il était violoniste lui-même. Même, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu le composer en prenant son instrument ?
Je pense qu'il avait son instrument dans la main quand il avait écrit.
Et ben on l'écoute interpréter ici par Anne-Sophie Mutter, peut-être la meilleure interprétation qui soit.
Ouais, c'est bien.
Thank you. un extrait de ce concerto en ré mineur, opus 47 de Jean Sibelius, l'Allegro moderato, donc pour violon et orchestre. C'est Anne-Sophie Mutter qui est au volant avec le Staatskapelle de Dresde, sous la direction d'André Prévin. Et Florent Niculescu, donc vous disiez l'avoir joué, ce concerto en ré mineur. Jouer du jazz manouche, est-ce que ça suppose de jouer sur son instrument différemment? On vous a entendu tout à l'heure, est-ce qu'on prend le violon d'une autre façon?
Bah, écoutez, voilà, moi, j'ai cette, pour moi, c'est spécifique. Vous voyez, je pense avoir un son florine, parce que
votre son à vous, quoi.
Oui, voilà, mon son à moi. Je traite la musique de jazz. Moi, je dirais pas juste manouche. Vous voyez, le jazz manouche, c'est devenu un style, mais c'est
un
Django.
Peu daté, c'est ça,
vous
ouais.
savez qu'est-ce que ça veut dire manouche dans la langue gypsy, gitan?
Ah ben, c'est
intéressant. C'est grand, voilà, grand. Grandiose. Et donc, Django, comme il était, ça veut dire un homme baro manouchi. Manouchi, voilà. Baro, ça veut dire grand, et manouchi, ça veut dire homme, finalement. Et comme Django, il était manouche, il était gitan, on appelait le jazz manouche, voilà, à cause de Django. Mais Django, il jouait avec une influence américaine, et j'essaye de m'encadrer dans la musique.
Ouais, vraiment de la liberté, du jazz.
Voilà. Et je pense que avoir trouvé un son, et je le tiens, ça veut dire que je traite cette musique-là avec le son classique, et je me sers de toute ma culture, et Digan, et classique, et la liberté folklorique que j'ai pu apprendre en Roumanie, même de Klezmer, on parlait tout à l'heure dans l'émission. Je suis proche
de la musique Klezmer.
Voilà, à cette culture-là, parce que je connais beaucoup de gens qui sont proches de moi, et j'ai partagé avec eux aussi la joie de jouer cette musique-là. Et donc, je traite avec un son assez ancré, énergique et qui approche de plus de un son classique que une trompette. Donc je exploite le violon.
Voilà. Alors je propose qu'on écoute Stéphane Grappelli puisque c'est votre mentor, c'est lui qui vous a fait venir en France.
Stéphane Grappelli, c'est le violoniste pour moi et pas que pour moi, je l'espère bien, mais je vois les articles quand même, qui est un des plus grands violonistes du XXe siècle. Et il a tellement ouvert la voie pour les violonistes de la élégance, liberté et profondeur qu'on ne peut pas faire sans lui.
On va l'entendre avec le pianiste de jazz canadien Oscar Peterson.
Bah, c'est un autre, j'ai eu l'occasion de jouer
avec Oscar
Carnegie
Peterson.
Hall, oui. Bon, c'est peut-être dans une autre émission.
Hein. Et, bah, une belle rencontre sans doute. En tout cas, on les écoute tous les deux, Oscar Peterson et Stéphane Grappelli, qui interprètent My One and Only Love. Thank you. My One and Only Love, Stéphane Grappelli et Oscar Peterson.
Fantastique, fantastique enregistrement.
Florinis Culescu, on peut dire que Grappelli improvise complètement, qu'il se laisse complètement aller à trouver les notes. On a l'impression de suivre le fil de sa pensée. C'est possible, ça?
Des fois oui, des fois non. Mais je voulais dire, ça, cet enregistrement-là, pour moi, c'est quelque chose de hyper spécial. Je ne sais pas, la rencontre de Grappelli et Oscar Peterson, ce grand pianiste, il a ramené Stéphane Grappelli sur un territoire de pensée musicale sans précédent, parce que avant c'était fantastique et j'étais tombé amoureux de qu'est-ce qu'il faisait. Et c'est pour ça que je voulais jouer la musique de jazz, Grappelli, etc., Django. Mais la rencontre de ce grand pianiste, Grappelli, vraiment, il vole. Hein. il prend l'instrument et la pensée musicale, c'est tellement loin. On dirait quand on écoute une musique comme ça, on dirait que c'est vraiment une sonate. On dirait que tout est écrit.
C'est la musique classique.
Oui, voilà. Ça dépasse la musique de jazz. On écoute ça comme musique et point barre.
Ça vous plaît, ça, qu'on écoute la musique comme de la musique point barre.
Voilà. Ça, c'est qu'est-ce que j'essaie de faire dans mes concerts, je rentre pas dans une polémique où je fais la différence entre un musicien de jazz et un musicien classique, musicien de folklore, je sais pas quoi. Parce que si on est bon, on peut s'adapter. On connaît l'harmonie, on connaît un peu le contrepoint, parce que tout musicien profond, il faut connaître ça pour savoir improviser, pour savoir s'exprimer. Sinon, il faut être un génie comme Django. Hein.
Alors vous, Florin Niculescu, qu'est-ce que vous retenez de ces 25 années passées en France? Parce qu'on célèbre vos 25 ans en France. 25 Years After, c'est le titre de votre double CD là, qui sort. Qu'est-ce que vous retenez de ça?
Bah écoutez, je suis un humble serviteur de la musique. Toutes ces années m'ont appris tellement de sagesse et tellement d'intégration. Et c'est extraordinaire de partir d'un pays comme Roumanie. Et qu'est-ce que je peux demander d'autre? Devenir Florin Niculescu en France, c'est incroyable. Merci à la vie, merci à tous ces gens-là qui m'ont donné la possibilité de m'exprimer comme artiste. Et voilà, je suis ravi.
Alors, on va vous écouter encore dans un extrait de ce disque 25 Years After, qui sort qui sera distribué par l'autre distribution, coproduction avec TSF Jazz. Et vous serez les 14 et 15 juin au Duc des Lombards. Pour ceux
qui
apprécieront
nombreux, hein.
Ouais, pour ceux qui apprécieraient ce morceau, c'est l'occasion d'aller le voir en live.
Thank you.
The Wisp, extrait du disque 25 Years After. C'est Florin Niculescu au violon, magnifique titre, hein, accompagné d'Emmanuel Bex à l'orgue et Simon Goubert à la batterie. Et plein d'autres musiciens qui apparaissent d'ailleurs sur ce disque, notamment Biréli Lagrène, qu'on n'a pas pu entendre là.
Oui,
mais qui est un vieux compagnon, on peut dire ça comme
Absolument. C'est un disque que j'avais fait 17 ans en arrière. Donc j'avais mis un double album. Je voulais marquer mon premier disque et le dernier album que j'avais fait. Et c'est s'appelle Gypsy Ballade, une fabuleuse rythmique Emmanuel Bex et Simon Goubert. Je me suis senti porté musicalement dans les plus grands nuages, si on peut dire. C'était mon premier disque et j'avais fait avec beaucoup d'amour. Et c'est ancré de ma culture. Voilà, qu'est-ce que vous avez pu écouter tout à l'heure, c'est un mouvement comme ça, gypsy, qui je l'ai transposé avec des rythmiques occidentales, et voilà, qu'est-ce que ça donne.
Très beau, très réussi. Vous serez les 14 et 15 juin au Duc des Lombards à Paris, et puis pour ceux qui aiment le festival Django Reinhardt, le 24 juin à Samois-sur-Seine,
oui,
en quintette,
hein, oui.
Et puis il y a plein d'autres dates qui sont sur le site de franceinter.fr à la rubrique « Vous avez dit classique ».
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Vous jouez toujours du classique, Florin Niculescu, pour vous entraîner?
Oui, absolument. Et pas que juste pour m'entraîner. J'entretiens la musique classique et je dois sortir un disque en septembre avec mon bon copain Paul-Christian Staïkou. Et on l'appelait Classique en liberté. On joue du Brahms, du Tchaïkovski, du Debussy, du Bartok, etc. Des pièces en miniature et on improvise dessus. Et ça m'oblige de travailler le classique, pas que entretenir. Hein.
Ah, bah c'est bien. Alors ce morceau, ça devrait vous plaire, c'est la sonate à Kreutzer que Beethoven avait dédiée, vous savez, au virtuose Kreutzer, dont il disait aimer sa simplicité et son naturel, d'après lui si rare chez les virtuoses qui souvent préfèrent privilégier l'extérieur sans intérieur. C'est Beethoven qui disait ça. Hein.
Oui,
alors on
ne
sait pas si Kreutzer lui-même a joué cette sonate à Kreutzer. En revanche, elle est ici interprétée par deux jeunes talents, Lorenzo Gatto et Julien Libert, un très beau disque qui vient de sortir chez Alpha Classics et dans lequel figure cette sonate numéro 9 en la majeure, dite sonate Kreutzer. Vous allez tout de suite reconnaître, bien sûr, le final, presto. Thank you. un extrait de cette sonate pour violon numéro 9 en La majeure opus 47 de Ludwig van Beethoven, appelée la sonate A Kreutzer. C'était donc ce final et c'était interprété par Lorenzo Gatto au violon et Julien Levert au piano. Un album qui sort chez Alpha Classics, ça vous a plu ? J'imagine,
absolument, sonate Kreutzer, tout ça, je l'ai joué aussi, hein. C'était obligatoire au conservatoire là-bas à Bucarest. Hein.
Alors, ça, hein. Votre disque à vous s'appelle 25 Years After, c'est sorti et distribué par l'autre distribution, et puis vous serez en concert les 14 et 15 juin au Duc des Lombards à Paris, le 24 juin à Samoa sur Seine, et puis alors vraiment une très 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 grande tournée dont... Quelques dates figurent sur le site de franceinter.fr à la rubrique « Vous avez dit classique ». Merci à Marie-Annick Rimbaud, Camille Poux, Jalaguilé, Claire Destacan et Alexandra Ramos da Silva. À la technique, c'était Sandrine Laurent. Merci, Florent.
Merci Nicolescu. À vous, Elsa.
Et à bientôt. Demain,
à bientôt.
On reçoit Édouard Perrault, le percussionniste de jazz. Mais pour l'heure, je crois savoir que vous êtes là, cher Alex Vizorek.
Exactement, Elsa Boublil. Je suis à côté de Juliette Arnaud. Bonjour, Juliette.
Bonjour, Alex.
Voilà, et puis il y a Guillaume Meurice. Et puis en fait, Charline Vanhoenacker est tombée malade.
Et bonjour à tous, puisque vous m'incluez, que ça
non,
me fait plaisir.
Non, parce que vous n'êtes pas dans le remplacement, vous, de Charline Vanhoenacker. Nous, on a pris à trois.
Vous n'avez pas le rhume.
Voilà, alors. Nous, on n'a pas le rhume. Donc, on l'a envoyée se coucher pour qu'elle soit en forme demain. Et puis nous, on va essayer avec la solidarité de vous, de l'auditeur, de faire une bonne émission avec Pauline Croze, qui se réjouit de nous voir patauger dans le remplacement de Charline.
Les inondations, ça tombe bien.
Exactement.
Allez, à tout à l'heure.